C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Loïc Tassé est expert politique en politique internationale. On lui a demandé ce matin de répondre à nos questions toutes simples à propos de la guerre que mène l'Ukraine face à la Russie. Je dirais plus la Russie face à l'Ukraine. Salut Loïc.
Bonjour.
Bonjour Loïc. Bonjour. Mais on dit que Vladimir Poutine est fou. Il se bat à armes inégales. Mais est-ce qu'il y a un bout où il y a raison d'envahir l'Ukraine? Comprends bien ma question, là. Ouais. Ça serait quoi sa légitimité selon lui?
Ben lui, il va sortir toutes sortes de choses. Il dit qu'il y a un génocide, que c'est une bande de nazis. Bon, c'est faux, c'est de la propagande. Ouais. En fait, il y a deux choses qu'il n'aime pas avec l'Ukraine. C'est que en 2014, les Ukrainiens ont mis dehors quelqu'un qui était une marionnette de Poutine. C'était un président qui était extrêmement corrompu. Et ils l'ont remplacé donc par quelqu'un qui était pro-européen. Okay. Ça, il n'a pas aimé ça. Et deuxièmement, ce que les Ukrainiens ont fait, c'est qu'ils ont pris la route de la démocratie. Alors qu'on sait qu'en Russie, ben, c'est un régime autoritaire. Et ça non plus, Poutine n'a pas aimé ça parce que c'est une vitrine démocratique juste devant la Russie. Alors il a fait deux choses. En 2014, il a pris la Crimée. Et il a pris aussi le Donbass, il a provoqué une guerre dans le Donbass, qui est cette région qui est tout à l'est de l'Ukraine, où il y a à environ 40% de personnes d'origine russe. Mmh. Et c'est ça qui l'a fait pour punir littéralement l'Ukraine. Et comme l'Ukraine persévérait dans la voie de la démocratie, persévérait à nettoyer le pays de la démocratie, ben, il est en train de les envahir en ce moment.
Ouais. Dis-moi, Loïc, hier, on apprenait que le président Biden des États-Unis, le président des États-Unis, tu sais, n'interviendrait pas en Ukraine. Est-ce que c'est une bonne chose ou une erreur de laisser aller Poutine?
Mais ça, il l'avait dit. En fait, il l'a dit il y a plusieurs semaines. Qu'il n'enverrait pas de troupes en Ukraine parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et donc, dans cette mesure-là, c'était clair dès le départ qu'il ne le ferait pas. Sauf que la mauvaise analyse là-dedans, c'était de se dire que Poutine aurait la bêtise d'envahir quand même l'Ukraine. Mm-hmm. Et il a envahi quand même l'Ukraine. Et ça, de ce point de vue-là, c'était irrationnel comme décision. Pourquoi? Parce que, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coalisé contre lui toute l'Europe. L'Europe qui était super divisée jusqu'à présent, tout d'un coup, trouve un ennemi commun et refait son unité. Donc, première bêtise. Deuxième bêtise, c'est qu'on ne voit pas vraiment comment il va pouvoir tenir plusieurs années à l'intérieur de l'Ukraine. Il va y avoir de la guérilla et les Russes vont se faire mettre dehors de l'Ukraine comme ils se sont fait mettre dehors de l'Afghanistan. Mmh. Ça va prendre des années, mais ça va y arriver. Et troisième bêtise, ben, ça coûte très cher une guerre. Ça coûte très cher en hommes, ça coûte très cher aussi économiquement, ça va de soi, ça coûte cher en alliance, en toutes sortes de choses. Et donc on se dit, le jeu en vaut pas la chandelle pour ça, mais il l'a fait quand même.
Et jumelé aux sanctions économiques, ça appauvrit deux fois plus vite là, aussi.
Ben oui, c'est ça. Mais il l'a fait quand même. Et c'est là qu'on se dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Poutine, là? Il est irrationnel. Et c'est ça vraiment qui fait peur aux gens, parce qu'on se dit, s'il est irrationnel comme ça, est-ce qu'il va de manière tout aussi irrationnelle attaquer un pays de l'OTAN? Par exemple, un petit pays de l'OTAN qui est tout au nord de l'Europe, par exemple, on pense à la Lettonie, à la Lituanie, etc., où il y a de petites minorités russes. Si jamais il faisait ça, là, les États-Unis ont été très clairs aussi.
Ouais.
Et ils ont dit, non, si vous attaquez un petit pays comme ça, nous entrons en guerre contre vous. Mmh. Et là, ça sera plus drôle. L'Ukraine, on espère que ça va rester contenu à l'Ukraine. On pense que vous avez fait une grosse gaffe, que vous allez vous épuiser en Ukraine. Mais si jamais vous attaquez un seul pays de l'OTAN, à ce moment-là, malheureusement, on va vous attaquer aussi.
Hey, Loïc Tassé, on veut savoir, ça sera quoi les répercussions de tout ça sur nous, sur le Canada?
Ben, tout ça, ça dépend quoi, ça.
Okay.
Si c'est juste l'Ukraine, ça va être assez minimal, parce que ça signifie que certains produits vont monter, évidemment. Hein, l'inflation va augmenter parce que les prix du pétrole et du gaz vont continuer à augmenter. Donc, oui, ça va avoir des répercussions comme celle-là. Puis, on va aider les Ukrainiens, donc, avec nos impôts, etc. On va aider une certaine guérilla là-bas. Mais ça ira pas plus loin que ça.
Okay.
Par contre, si jamais Poutine commet l'immense erreur d'attaquer un pays de l'OTAN, là, ça veut dire que tous les pays de l'OTAN entrent en guerre contre la Russie.
Nous inclus.
Et nous inclus.
Ouais.
Et ça, c'est plus drôle. Là, on parle d'une guerre contre la Russie, qui est quand même une immense armée et qui a aussi des missiles nucléaires. Et c'est là que tout le monde se dit, faut pas aller là, c'est trop bête.
Loïc, j'invente 30 secondes avec toi pour qu'on parle quand même un peu de la Chine. La Chine qui est très timide présentement, qui a des visées un peu semblables à ce que la Russie a, entre autres avec Taïwan. Est-ce que tu penses que ça se pourrait que Xi Jinping décide là d'envahir Taïwan, mettons?
Mais c'est sûr que plus la situation... D'abord, les deux pays sont expansionnistes et ils sont alliés. Alors, c'est sûr que plus la situation en Europe va se détériorer, plus la fenêtre d'opportunité pour la Chine va s'ouvrir. Et effectivement, si les États-Unis sont pris avec une guerre contre la Russie en Europe, puis on ne sait pas d'ailleurs ce que l'Iran va faire, et peut-être que l'Iran va en profiter pour faire quelque chose aussi. Mmh. Alors à ce moment-là, évidemment, la Chine va se dire, tiens, voilà une opportunité pour envahir Taïwan. Les États-Unis qui défendent Taïwan et leurs alliés vont être affaiblis, vont être absorbés par le conflit en Europe. Ils auront raison de ce point de vue-là, d'un point de vue strictement militaire. Ce sera une très belle opportunité.
Loïc, c'est le temps qu'on avait. C'est drôle quand même en terminant qu'il y ait attendu que les Olympiques en Chine soient terminés avant de passer à l'action. Poutine, mais j'irai pas jusque-là.
Ben, il a massé ses troupes avant la fin des Olympiques. Ouais. Et normalement, il y a une trêve pendant les Jeux Olympiques.
C'est ça.
Puis évidemment, donc il n'a pas attaqué pendant la trêve.
Merci
mais
beaucoup.
Le lendemain, par exemple.
Ouais. Hey, merci beaucoup, Loïc. C'est toujours fascinant. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Loïc Tassé, professeur, expert en politique internationale, professeur à l'Université de Montréal.
Des comiques, de retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Alors que quand on meurt, on veut passer le film de notre vie. On a tous déjà entendu cette phrase-là. Oui. Et je vous ai déjà raconté que j'ai expérimenté, moi, ça, le film de ma vie, vraiment.
T'as-tu voulu, ça, cette affaire-là?
Ben, c'était pas voulu, honnêtement. Je pense, je suis déçu que c'est Rémi Girard qui me jouait. Mais sinon, mais pas de farce. J'avais passé proche, j'ai déjà raconté, là,
une fois
où j'avais passé proche de mourir. Puis pendant deux semaines, au moins, j'avais une résurgence de souvenirs, des choses que j'avais complètement oubliées, mais avec une clarté. Puis plus j'étais proche de l'événement, plus j'en avais, puis c'était clair, puis c'était même étourdissant. Jusqu'à ce que ça s'estompe. Je dirais, après deux semaines, c'est revenu à la normale.
Okay.
Et je me suis dit, est-ce que j'étais fou quand j'ai vécu ça ou quoi? Eh bien, apparemment que non. J'avais bien raison de penser que j'avais vu le film de notre vie. Il y a des scientifiques, des neuroscientifiques qui ont fait une expérience la semaine dernière, ou en fait, dans les dernières semaines. Eux autres, là, ils se sont connectés. Ils ont connecté, donc, des capteurs sur la tête, sur le cerveau d'un homme. Un homme qui faisait une crise cardiaque. C'est un hasard. Un petit peu. Donc, l'homme était connecté. Le monsieur de 87 ans a fait une crise cardiaque et il est décédé en étant connecté. Et la lecture qu'ils ont faite du cerveau quand il y a des activités dans les zones cérébrales, la lecture qu'ils ont faite à ce moment-là, c'est exactement les mêmes phénomènes que quelqu'un qui se réveille d'un coma.
Ah oui? Non.
Donc, qui réallume le cerveau puis que tu reviens à la conscience... Ben ça, c'est les mêmes graphiques, les mêmes schémas qui sont apparus à ce moment-là. Et ça suggère ça donc que cette impression que t'as qu'on entend des fois que tu vois le film de ta vie, ben scientifiquement ce serait prouvé que oui à cause de cette expérience-là. C'est la première fois que ça arrivait qu'on monitorait littéralement quelqu'un au moment de son décès au niveau du cerveau puis qu'on regardait ça comme tel là. Et c'est vraiment c'est troublant quand même d'entendre
vous,
ça, mais que la science.
Si vous voyez le film de votre vie, ça serait quoi, une comédie romantique, un drame d'aventure?
Ah moi ça serait vraiment comme non. J'ai l'impression que ça serait comme Les Misérables.
Les Misérables, hein?
Ça va, t'es né sur une ferme, mais t'es pas...
Non, mais pour vrai, moi, j'ai l'impression que... J'ai l'impression des fois que je rush dans la vie, tu sais. Je rush dans la vie. Moi, je suis tourmenté, moi, dans la vie, OK? On va se le dire.
Ouais.
Ça faisait tant qu'à consulter, là. Fait que moi, je pense que ça va être Les Misérables. Avec une musique lourde, un peu, là, tu sais. Puis en noir et blanc, là, tu sais, puis...
Extrême pauvreté avec une Tesla, impossible.
Mais non, je sais.
Non, mais tu sais, c'est impossible. Ben, la présence de la religion, oui, peut-être.
Ouais, ça peut quand j'étais jeune, la religion, je sais pas.
Moi, j'ai jamais vécu ça, ce que t'as vécu. Mais le film de ma vie, probablement, ça sonnerait de même.
Hein?
Ouais, hein? Le bout d'un bateau, là.
Mais là, comment ça va?
À se geler bout des doigts. Avec une fille que tu connais pas dans tes bras, là.
C'est un fantasme, Pierre-Luc, pour la suite de...
Finé noyé, en lâchant une porte qui flotte.
Moi, je pense que ça serait genre Ocean Eleven.
Ah ouais.
Une affaire de... C'est sûr que tout était une arnaque. Qu'est-ce qui s'est passé? On réalise à la toute fin, mais moi, je finis avec plein de bidous dans une ben vie.
Hey, juste pour le fun, mon bénéfice personnel, ça va être quoi le film de votre vie? Textez-moi ça sur la messagerie texte, que je m'amuse un peu et que je me ressorte de mes misérables, que je mette un peu de couleur. Ah, oh, je sais, la liste Schindler.
Mais voyons, oui, c'est un appel à l'aide ce matin.
Le podcast Debout les comiques.
Vous rappelez-vous cette explosion d'une île dans les Tonga en janvier? Ça avait fait la une parce que ça avait vraiment donné un champignon, presque comme un champignon atomique.
Oui, oui,
et
oui.
Cette île-là des Tonga, ça a fait que l'archipel des Tonga, des petites îles dans le Pacifique, ont été coupés du reste du monde en termes de télécommunications parce que on est relié la planète là partout par des câbles sous-marins. Et il y a un câble donc qui a été brisé, abîmé, forcé, détruit par forcément par cette explosion là qui était immense, vraiment inouïe. Et ils viennent juste d'être reconnectés après 5 semaines que ça a pris. Puis là j'étais là, je dis voyons, c'est bien bizarre ça. 5 semaines
ouais,
quand
mais
même.
Imagine surtracer ça dans le fond
ben,
de la mer.
C'est ça, je sais pas si c'est rapide ou pas, mais ça m'a amené à googler les câbles océaniques. Et je suis tombé des nues, mesdames et messieurs. Il y avait beaucoup trop d'affaires que je savais pas là-dedans.
Hey, moi, je connais rien de ça. Ben, je savais même pas qu'il... pour moi, des câbles dans l'eau, c'est synonyme que ça va mal virer. Là.
Ben, des câbles dans l'eau, là, en 2014, il y avait, à travers le monde, dans les océans, 263 câbles sous-marins. C'est d'un diamètre de 2 pouces, un petit peu plus des fois.
Ah, accrochés par des briques?
Accrochés, assis dans le lit de l'océan, sur les plaques continentales. Puis on les met sur le lit, dans le fond de la mer, puis on les enterre de vases, on les envase littéralement,
ah ouais, okay.
Pour pas que les chalutiers qui grattent le fond de l'océan les arrachent.
Okay. OK.
Je savais pas ça. Il y en a combien, d'après vous autres, en 2020?
En termes de kilomètres?
Non, pas en termes de kilomètres, en termes de nombre dans tous les
200...
océans. Il y en avait 263 en 2014.
Sur toute la Terre?
Sur toute la Terre.
Et là, 500 peut-être.
T'es pas loin, t'es un petit peu fort, mais avec l'internet qui arrête pas d'exploser puis la haute vitesse, on est rendu à 406 de ces câbles là.
Ça a quasiment doublé.
Ça a presque doublé puis je pense pas que ça va arrêter. La technologie s'améliore, ils sont plus légers maintenant, un peu plus petits en diamètre. L'autre affaire que je savais pas, c'est que les Tonga quand ça a explosé là, il y a un câble qui est parti. Puis là ils ont fait comme OK, tu peux-tu aller réparer le câble vient de péter là à telle place là.
Ouais,
oh, ouais, j'y vais. Il y a, à différents endroits sur la Terre, des services de dépannage pour ces câbles-là. Okay. Littéralement, comme des towing qui partent. Puis le plus proche était à 10 jours de navigation. Lui, il a fallu qu'il retrouve les deux bouts du câble dans le fond de l'eau. Ça, il est localisé parce qu'il y a un signal qui se rend là. Et ils ont dû remplacer 80 kilomètres. Qui était morcelé,
sectionné.
Écoute, il y en a des milliers de kilomètres. Là, pour vrai, c'est des centaines de milliers de kilomètres. Ces 400 câbles-là, mais allez, je capote comment ils ont fait pour trouver ça, mettre les marettes, puis remettre ça dans l'eau après.
Dans la liste des gens qui exercent un métier, des gens que je ne croiserai jamais, c'est sûr qu'il y a des gens qui font ça. C'est tellement niché.
Puis il y en a, c'est une vingtaine de stations comme ça à travers le monde, donc, de ces spécialistes-là, ces réparateurs-là. Puis écoute, j'imagine le gars qui se l'enroule autour
mais
du
oui.
coude.
Mais oui.
Le mettre dans le cabanon.
Il y a Daniel et Steve Bélanger sur la messagerie texte qui écrivent, ben voyons, maintenant, on sait pourquoi le niveau des océans monte.
Ben je pense que oui aussi.
Gros câble dans le fond.
Ces câbles-là, mais hey, écoute bien, ça peut peser jusqu'à 10 kilos le mètre.
Mais
c'est quand même pesant.
Si tu veux qu'il reste dans le fond, faut qu'il soit forcément très pesant.
Ben il y en a qui flottent, là. Pour vrai, quand t'es dans les fosses abyssales, ils passent dans les airs, ils descendent assez en bas, mais ils pourraient avoir des animaux qui les brisent ou autres. Un navire qui coule pourrait un de ces câbles-là, mais hey, j'en revenais pas. Puis les Américains et les Britanniques savent absolument tout ce qui passe par ces câbles-là entre l'Europe et...
Et les États-Unis?
Et l'Amérique.
OK. Okay.
Puis je pense que la Russie fait la même affaire de son bord, puis je pense que la Chine, puis le Japon, puis l'Australie, là, mais ça a l'air qu'ils sont capables de dire tout ce qui passe dans le câble. Dans les câbles.
Et tabarouette, hein?
C'est quand même quelque chose. C'est un univers, en tout cas. Jamais je pourrais travailler là-dedans. J'ai trop peur de l'eau. Et je suis pas assez bon quand je fais des joints. Pour vrai, ça prend des professionnels.
Ah ouais, c'est compliqué.
Tape électrique, la marrette, faire fondre après ça la gaine autour de ça avec un lighter.
Commence par faire ton caulking comme du monde. Là, ça te parlera.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Ah, c'est quoi? On a décidé d'ajouter un segment de vulgarisation scientifique à notre émission Debout les comiques. Et pour s'en charger, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout inspiré de Martin Carly. Voici Tammy Carly.
Bonjour, ici Tammy Carly. Donnez-moi un si.
Si.
Donnez-moi un anse.
Anse.
Que cela donne-t-il?
Science.
Je répète la question, que cela donne-t-il?
Science.
Eh oui, science. Vous voyez, la science peut soulever les passions. J'aime tellement la science que quand j'étais ado, j'étais un fan fini de Dr. Dre, juste parce que je pensais qu'il y avait un doctorat. Aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène qui ne fait pas couler beaucoup d'encre. D'encre, mais bien de la sève. Et j'ai nommé le sirop d'érable.
Ah.
Je m'excuse pour cet info trop boboche. Je l'ai volé à Radio-Canada et Patrick Masbourian trouvait ça très, très drôle. Il faut que les érables soient à un âge mature pour produire de la sève. C'est comme leur puberté. Pour bien vulgariser, imaginez des érables menstrués à qui on met de très grosses divacopes en métal. Tadam, vulgarisation.
Ah oui, on a les images.
Tant mieux. Le sirop d'érable devient de plus en plus rare, au point où l'expression « rare comme de la marde de pape » s'est transformée pour devenir « rare comme de la marde de pape » avec du sirop d'érable dessus. Je vous ferai bien des jokes sur l'assyriculture, mais je trouve qu'on a assyrie de même. Patrick Masbourian se pisserait dessus en entendant ça. Le sirop d'érable est très populaire au Japon. Presque autant que Mario Pelcha et Jacinthe. Pour obtenir des produits de l'érable, c'est vraiment pas compliqué.
Oh non, hein?
Tu fais chauffer de l'eau d'érable, tu vas avoir du sirop. Tu fais chauffer du sirop, tu vas avoir de la tire. Tu fais chauffer ma femme, tu vas avoir un accident. Ta dame, joke misogyne d'une autre époque.
Tellement.
Comme vous le voyez, en studio, je porte mon sarrau blanc,
ben oui,
mes lunettes de protection et un condom nervuré. Tadam, protection.
Ouais.
Je suis vêtu avec protection parce que je vais tester scientifiquement devant vous le processus de création du sirop d'érable.
Ah.
J'ai donc ici des souris que je vais entailler comme un érable. Et maintenant, je place les souris dans cette casserole d'eau super bouillante pour faire de la tire.
Mais
et voilà qui donne des souris mortes.
Voilà.
Oh là là, ta dame malaise. La semaine prochaine, je vous montre comment changer votre 7-Up flat en utilisant votre 7-Up de secours. Bonne science, tout le monde!
C'est dégueulasse!
Oh. Le podcast Debout les comiques. Le potineur artistique.
Oh yeah! Le patineur artistique de retour, ça faisait longtemps. Ah, t'as un barbelé enroulé d'une brosse de lavoto. Je gratigne tout sur mon passage.
Ouais, ben
Le comédien Patrice Godin, un monsieur ultra-marathon, hein, connu pour avoir joué dans District 31 et j'en passe. J'en passe pas mal même.
Oui.
Il admet avoir remis sa carrière en question et je cite « Je n'étais pas très heureux ». Mais je te dirais, Patrice, que ça paraissait pas mal dans ta face depuis une couple d'années. Si le bonheur est revenu, ben peut-être y faire le message. Patrice Bélanger... Ah non, ça graphine.
Ouais.
Patrice Bélanger décroche un rôle dans la série Hôtel. On se rappelle que Patrice avait à la base une formation de comédien avant de devenir le couteau suisse du show business. Après la guerre en Ukraine, les nids de poule et la fin de District 31, Mariana Mazza explique pourquoi elle n'aurait pas d'enfant. Vous voyez qu'il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. Ah oui, on reste, j'aime ça des... Ça veut dire que je suis à bonne place. On reste dans les nouvelles, dans les bonnes nouvelles. En fait, José Godet a attrapé la COVID-19, c'est pourquoi il ne sera pas de l'émission. Ça finit bien la semaine ce soir. Alors pour ceux qui trouvent que des fois José, hein, il est sur 220, eh bien sachez qu'il sera remplacé par le couteau suisse du show business. J'ai nommé Monsieur Toyota.
Palpite, 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 palpite.
Voilà! On se souvient de Rime d'Occupation Double, hein? Ben non, on s'en souvient pas. Mais c'est une ville d'Occupation Double.
Oui,
on est tous capables de se faire une idée, là. Ouais. Eh bien, sachez qu'elle enflamme le web actuellement alors qu'elle pose en bikini sur le bord de la mer. Et je vais dire comme Sébastien, Lapierre, la mise en onde, hein? C'est un tout petit bikini, mais ça y cache le rime. Je l'assumais moins, fait que je me suis dit, moi, la mettre sur Sébastien.
Ouais, c'est ça.
Quatrième enfant pour Michael Bublé. Ah, honnêtement, j'étais étonné parce que je pensais qu'il y en avait plus que ça.
Ben,
ouais, à la maison, chaque fois qu'on écoute sa musique, on a juste le goût d'en faire un autre. Imaginez quand c'est lui qui te chante directement à l'oreille ceci. Avoue que t'as les deux oreilles qui t'apprennent.
Ah, oui. On voit vraiment, là.
Ah, wow. Et je termine avec Mathieu Dufour, alias Matt Doff, se fait transformer en drag queen. Et le résultat est impressionnant. En même temps, on partait pas de très, très loin, là, Mathieu, hein?
Non.
Avec ses grands cheveux bouclés et sa petite peau de pêche, là. Martin Cloutier en drag, ça, c'est un projet sur deux jours.
Ça a déjà été fait?
Ah oui? J'avoue que peu importe le résultat, je suis sûr que je suis impressionné. Honnêtement, assez de fois des cauchemars.
Ouais, ouais.
Ah, ça doit être le seul moment où Dominique Sion prendrait deux yeux en vitre.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.